9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Tiens, et AVS aujourd'hui, ça veut dire à votre silhouette. Bonjour, bienvenue, le docteur Réginald Lalouche est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour.
Il y en a un qui a une mine de quelqu'un qui revient de Miami. Hein.
Voilà, c'est ça, de Floride, oui.
La vie est dure. Hein.
La vie est très très dure, mais bon, c'est... vous savez, l'avion, c'est l'avion le plus dur en fait. C'est loin.
Oh, s'il n'y a que ça comme problème.
Ah, bon, aujourd'hui, tout le monde pourrait aller en Floride s'il en a envie. C'est pas le
votre empreinte carbone. Donc.
Alors ça c'est autre chose, voilà. Parce que vous savez, on a beaucoup discuté de ça pour les voyages de cette chère Greta. Oui. Et en fait, le fait de venir en bateau avec deux skippers et que les skippers prennent des billets d'avion pour rentrer avec un avion spécial, si vous voulez, si on commence à rentrer là-dedans, on va pas s'en sortir.
Médecin...
Et ça ne veut pas dire qu'il faut pas sauver la planète. Hein.
Oui, mais d'accord, on a bien compris. Voilà. Bien, médecin, nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Votre dernier livre qu'on va montrer pour ceux qui regarderont la vidéo s'appelle La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Voilà, on a un auditeur qui s'appelle Thomas Valo qui m'a tanné pour qu'on parle de son régime cétogène. Donc cette émission lui est dédiée. De quoi parle-t-on quand on parle de ce fameux régime cétogène qui a quand même... Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui lui sont consacrés, oui, beaucoup d'articles, oui. Beaucoup de gens qui disent j'ai fait mon régime cétogène, des stars, tout ça... Oui. C'est quoi un régime cétogène?
Ça a été beaucoup popularisé par Hollywood, particulièrement par Alberi.
Alberi, oui.
Alberi qui utilisait ce régime. En fait, le régime cétogène est un régime très ancien. Il a été mis au point par la Mayo Clinic il y a à peu près un siècle.
Par?
La Mayo Clinic. La Mayo Clinic, c'est la star des avancées en nutrition aux États-Unis. Et cette Mayo Clinic, il y a un siècle, mis au point ce régime au départ... pour éviter les convulsions chez les enfants atteints d'épilepsie.
Voilà.
Voilà. Donc en fait, c'était au début un régime thérapeutique. Il faut dire aussi que c'est le régime quasiment quotidien des Inuits, des Indiens Inuits.
Pour diminuer les convulsions chez les épileptiques.
Voilà, exactement, pour diminuer les convulsions, parce que dans cétogène, il y a cétaux, les corps cétoniques, qui sont les produits de dégradation. Je vais un peu expliquer comment ça marche. Et en fait, le cerveau aime bien les corps cétoniques, et ils ont un côté apaisant pour les neurones de notre cerveau. Alors donc, ce régime est venu très à la mode, parce qu'il est très efficace, pour perdre du poids.
Donc ça c'est vrai, parce que là,
ça, c'est vrai.
Souvent on pose la question, est-ce qu'il est plus efficace que d'autres régimes pour perdre rapidement du poids?
Voilà, il est efficace, mais rappelez-vous que nous sommes des omnivores. C'est-à-dire que ce qui a fait que l'homme aujourd'hui règne sur la Terre, c'est qu'il est capable de manger n'importe quoi. À partir du moment où vous vous opposez à cette capacité à être omnivore, c'est-à-dire à manger des sucres, des graisses, des protéines, à ce moment-là vous allez transformer votre métabolisme, vous allez chercher des voies métaboliques qui ne sont pas celles que vous utilisez tous les jours. Et donc, vous allez un peu tordre votre métabolisme. C'est-à-dire que le régime cétogène, on peut le faire, mais il a quelques petits inconvénients, parfois des inconvénients majeurs. Hein, il faut savoir que, et ça c'est vrai pratiquement de tous les aliments que vous pouvez consommer, à partir du moment où vous forcez sur une catégorie, vous savez qu'il y a trois grandes catégories. Les glucides qui sont les sucres, qu'ils soient simples ou complexes. Hein, les sucres simples, c'est le sucre en poudre. Les sucres complexes, c'est les amidons et les légumineuses.
Après, vous avez... Ceux qu'on ne voit pas, quoi, en fait.
Voilà. Ouais. Après, vous avez les protéines. Protéines, c'est le poisson, les œufs, la viande. C'est assez simple à comprendre. Et puis ensuite, vous avez les lipides qui sont les graisses. Et dans les graisses, vous avez les graisses saturées et les graisses insaturées. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Ça, c'est important. Alors, il y a des recommandations, enfin, en tout cas, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut manger tant de lipides, tant de glucides.
Voilà. Aujourd'hui, la doxa, la doctrine,
ouais, en gros.
C'est 55% de glucides, c'est à peu près 15 à 20% de protéines, et c'est en gros 25 à 30% de lipides. Voilà. Ça c'est 25% de lipides en gros. Donc ça c'est la doxa, c'est la doctrine. Le problème quand on dit ça, c'est qu'on ne dit pas quel type de glucides, ce serait trop simple en fait. Le problème c'est que la nutrition, et vous le savez très bien depuis que nous faisons ces émissions, dès qu'on rentre dans le détail, on s'aperçoit que c'est très complexe. Pourquoi ? Les glucides, vous avez des glucides qui sont dits simples, et qui vont être absorbés très vite, hein, ça se comprend, et puis des glucides complexes. Mais les glucides complexes, c'est l'amidon. L'amidon, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de glucides qui sont attachés, et lorsque vous les avalez, votre estomac va les découper, et ça va redevenir du sucre simple. Mais la vitesse à laquelle on découpe va déterminer la vitesse à laquelle on va les assimiler, et la vitesse et la puissance d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est une hormone absolument toute puissante, et qui, elle, a des conséquences si elle est trop sécrétée ou pas assez bien sécrétée. Donc, vous voyez, ça, c'est pour, ne serait-ce que pour les glucides. Dans les lipides, vous avez les graisses saturées, comme l'huile de palme, et des graisses insaturées, comme l'huile de tournesol et l'huile de colza. Mais je viens de dire tournesol, colza, vous dites c'est insaturé, c'est très bien. Malheureusement, la
tournesol... Et alors, olive, parce que...
Et olive, alors, je vois que monsieur connaît. Alors, dans les graisses insaturées, donc celles qui sont dites bonnes pour la santé, vous avez les oméga-3, les oméga-6 et les oméga-9. Les oméga-9, c'est ce qu'on appelle les monoinsaturés, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive est une très bonne graisse, est une très bonne huile à consommer quand même avec modération. C'est pas parce que c'est bon qu'il faut en prendre beaucoup. Ensuite, vous avez les oméga-3 qu'on trouve dans le lin, par exemple, dans le colza, mais surtout chez les animaux comme les sardines, les poissons. En fait, ces oméga-3...
Les poissons gras.
Les poissons gras sont des acides gras connus pour être anti-inflammatoires et connus même pour être extrêmement favorables au cerveau. On dit même que à l'époque, aux époques vraiment anciennes, l'intelligence est née autour des lacs et autour des rivières et autour sur les côtes. Parce que le fait de manger du poisson et des oméga-3 a permis un développement harmonieux de notre cerveau. C'est en ça que le poisson est très bon. Et puis, les oméga-6, ce sont des acides gras insaturés. Vous allez me dire, mais Réginald, c'est bon pour la santé. Oui, malheureusement, c'est un peu inflammatoire. Donc vous voyez que si vous en consommez trop, vous avez des inflammations. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Donc le régime cétogène, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, si vous forcez, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, je réduis les sucres à leur plus simple expression.
Alors c'est-à-dire, alors, réduire les sucres jusqu'à combien?
L'idéal, c'est jusqu'à zéro. C'est-à-dire tout ce qui contient des sucres est abandonné.
Tous les sucres?
Tous les sucres. C'est-à-dire les sucres simples et les sucres complexes.
Donc du riz, on ne peut pas en manger, par exemple.
Pas de riz, pas de féculents, pas de légumineuses, pas de pain, tout ce qui concerne les sucres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On met l'organisme dans un... L'organisme humain est merveilleux. Il a tous les outils pour pouvoir survivre, puisque c'est ça le but de l'humain, et c'est pour ça que l'homme règne sur la Terre, c'est qu'il a une capacité de survie absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Vous lui enlevez les graisses, vous lui enlevez les sucres, et il va faire du sucre, parce que le seul carburant de l'organisme,
ce qui nourrit le cerveau, par exemple,
le cerveau, les muscles, c'est le glucose. Le glucose, il vient principalement des sucres, mais il vient aussi, on peut le faire quand on n'en a pas, on peut le faire à partir des protéines, et on peut le faire aussi à partir des graisses. Et donc, qu'est-ce que va faire l'organisme? Il dit, d'accord, tu veux plus me donner de sucre que je puisse assimiler directement? Je vais le faire à partir de ce que tu me donnes, c'est-à-dire des graisses, principalement dans le régime cétogène, puisqu'on augmente significativement tout ce qui est gras. Mais il faut bien comprendre que pour être en cétose, eh bien, il faut supprimer vraiment tous les sucres. Et c'est là où il faut quand même, il faut que les gens prennent des précautions. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'on oublie, et lorsque vous allez voir sur les sites tout ce qui se dit sur les cétogènes, j'ai été frappé par l'absence d'une chose. Il faut savoir qu'il y a eu ce qu'on appelle une lipotoxicité, c'est-à-dire que les lipides, à grosse dose, peuvent être toxiques. Donc il faut bien comprendre que ce sont des régimes qui s'adressent à des gens...
C'est-à-dire si je comprends bien, c'est qu'on ne peut pas manger autant de gras qu'on voudrait.
Non.
Non.
Non, parce que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les graisses peuvent empêcher, par exemple, une bonne utilisation de l'insuline. On connaît l'impact des lipides et de leur toxicité chez les gens déjà qui sont limites vis-à-vis du diabète. Et donc, cette lipotoxicité va augmenter les risques d'avoir un prédiabète, voire un diabète de type 2. Donc, il est extrêmement important de bien savoir qui on est. Quand on fait un régime, il y a deux façons de le faire.
Parce que alors là, ce que vous dites est intéressant, parce que sur certains sites, vous lisez que le régime cétogène est bon pour les diabétiques de type 2.
Alors...
Ça, c'est une information qui circule. Ça serait parce que, comme justement, on prive l'organisme de sucre,
mais c'est trop facile. C'est-à-dire que...
Vous dites que c'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est pas vrai pour une bonne raison. C'est qu'il faut absolument, absolument savoir dans quel état on est. Si on est en bonne forme... Écoutez, je vais encore plus simplifier. Dans le cadre des régimes, on se casse la tête à essayer de limiter l'entrée de ceci, l'entrée de cela, de favoriser celui-là, de défavoriser celui-là. Alors que la vraie clé, c'est de brûler les calories. C'est-à-dire que si on mettait autant d'énergie à s'organiser pour faire de l'activité physique, que de l'énergie qu'on peut mettre devant Internet pour essayer de trouver le miracle, le régime miracle, à mon avis, les choses iraient beaucoup mieux. C'est ça le problème. C'est qu'au fond, je suis désolé de le dire, pour nos auditeurs et nos auditrices, nous avons entre 65% et 80% de muscles. Et je ne connais pas une seule entreprise qui ne fait pas travailler 65 ou 80% de ses employés qui aille très très bien. Donc on est confronté à un vrai problème. Alors c'est facile ce que je dis. Parce que quand on vit dans une ville comme Paris ou sa région, pour faire de l'exercice, il faut vraiment en vouloir.
Ah bah là, ils nous ont mis en marche pendant un petit mois, depuis un petit mois.
Oui, ils nous ont mis en marche dans une atmosphère assez polluée, avec beaucoup de stress, à courir, à faire des efforts. Je veux dire, c'est pas comme ça l'activité physique. L'activité physique, il faut que ce soit un plaisir. C'est déjà pas un plaisir de se dire, allez, je prends mon sac, j'y vais. Mais si en plus, c'est pour aller au travail et de se dire, je me fais engueuler si j'arrive un quart d'heure après, c'est pas de l'activité physique. Ça, c'est que du stress. Donc, il faut vraiment que nos urbanistes, ça, c'est, on va être en campagne municipale, c'est un appel que je lance à nos futurs maires. C'est, faites quelque chose pour que ce ne soit pas les médecins qui poussent les gens à faire de l'activité physique. C'est quand même un paradoxe. Nos enfants, nos lycéens, nos parents, même les personnes âgées, il faut faire de l'activité physique. Un organisme qui ne fonctionne pas, qui ne bouge pas, est un organisme qui ne va pas. Souvenez-vous, sur ces ondes, j'avais parlé du système lymphatique, dont personne ne parle. Je vous rappelle ce que c'est le système lymphatique. On a des artères pour amener du sang oxygéné, pour oxygéner nos organes, et on a des veines pour amener le sang vicié qui va être renouvelé quand il passe dans les poumons. Très bien, tout ça est très bien et beau. Mais on a un troisième système qui est le système lymphatique. Lymphatique, ça veut dire quoi ? C'est que c'est le système des éboueurs de votre organisme. Il prend tout ce qui est mauvais, il y a des lymphocytes qui vont attaquer les bactéries éventuellement qui traînent, les toxiques, c'est même lui qui transporte les graisses qui viennent de l'intestin pour aller au foie. Ce système n'a pas de cœur, n'a pas de pompe. Sa seule pompe, c'est l'activité physique. Et c'est pour ça, après, je ris beaucoup quand je vois les articles disant « Alors, les gens qui font de l'activité physique ont moins d'infections que les autres. Les gens qui font de l'activité physique sont en meilleure santé et vivent plus vieux. » Ben, c'est normal. Parce que quand on a un système lymphatique qui marche, parce que le seul système qui permet à la lymphe de monter et de circuler, c'est la contraction musculaire. Et quand nous avons été créés...
C'est le fait de bouger, donc.
Voilà. Quand notre créateur nous a créés, il s'est dit, de toute façon, j'ai mis tellement de muscles dans l'organisme que de toute façon, le système lymphatique marchera. Mais notre créateur, il faut qu'il pense au fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans des systèmes où on a oublié l'activité physique. Et donc, on en est effectivement tous à essayer de chercher le régime miracle qui va faire que, sans faire cette activité physique, qui est une activité qui demande de l'énergie, eh bien, on va pouvoir perdre du poids. Il n'y a pas 36 solutions pour perdre du poids. Il faut brûler les calories que nous avalons, et on en avale de plus en plus tous les jours. Donc, ça, c'est le vrai problème. Alors maintenant, pour ceux, je vais revenir au régime cétogène, parce qu'ils vont vous
Non, il a crié, il a poussé son cri.
Non, je n'ai pas poussé mon cri, mais...
Son cri de début d'année.
Je pense que pour faire un régime cétogène, il faut être en bonne forme.
Déjà, donc ce qui veut dire que tout le monde ne doit pas se lancer dans un régime cétogène.
J'ai même, quand on refait pour préparer vos émissions, j'ai même regardé un petit peu les utilisations autres et thérapeutiques. Par exemple, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent du régime cétogène dans le traitement des cancers. En disant, en cas de cancer, on sait que la cellule cancéreuse consomme 40 fois plus de sucre que les autres cellules.
Dans les années 70, il y avait des travaux d'un monsieur qui s'appelait André Gernès, qui a beaucoup réfléchi justement à ça, à mettre l'organisme en cétose.
Exactement. Donc, on se dit, si on ne nourrit plus la cellule et la tumeur, eh bien à ce moment-là, on va tuer, la tumeur ne peut plus résister. Alors, c'est vrai, c'est faux. Ça dépend tout simplement du type de cancer et du type de cellule et à quel stade elles ont évolué. Vous savez, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a décidé d'être immortelle. À tel point qu'elle est même capable de dire, tant pis, je veux être immortelle, je veux rester jeune, je suis de plus en plus jeune et je vais même tuer mon hôte. Donc elle est devenue complètement ado, quoi.
C'est-à-dire que même les traitements qu'on utilise pour tuer les cellules cancéreuses ne les tuent pas vraiment.
Si, la chimiothérapie, ça tue les cellules cancéreuses, mais ça ne tue pas que les cellules cancéreuses. Mais je parlais justement des sucres. C'est-à-dire que si on affame une cellule cancéreuse, eh bien effectivement, elle va avoir des problèmes pour se développer, pour envoyer des ambassadeurs ailleurs pour faire que le cancer se développe. Et donc, théoriquement, ça paraît intéressant. Le seul problème, c'est qu'il y a des cellules cancéreuses qui sont capables de faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse. C'est-à-dire à partir des graisses et des protéines, de faire des sucres quand même. Donc vous voyez que le régime cétogène peut être un apport, un début d'apport, dépendant du type de cancer auquel on est confronté. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec à l'apprenti sorcier. Aujourd'hui, il y a des protocoles dans le traitement des cancers qui fonctionnent. Hein. Je dis souvent, le cancer, on peut en guérir. Le diabète, malheureusement, si on ne fait rien, on n'en guérira jamais. Mais donc, le cancer, il faut faire très, très attention.
Enfin, vous savez bien, parce que vous allez souvent aux États-Unis, que certaines cliniques, notamment en Californie, utilisent ces formes de jeûnes pour les gens qui sont en chimio, par exemple.
Voilà. Mais c'est un plus. Le problème, c'est que si les cellules cancéreuses qui sont incriminées sont des cellules qui ont le matériel génétique pour refabriquer des sucres à partir des graisses et des protéines, elles continueront à vivre. Donc vous voyez, il y a des méthodes d'ailleurs pour empêcher cette néoglucogénèse, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Il y a aujourd'hui des médicaments qui ont des capacités à empêcher les cellules cancéreuses de faire du sucre. Et je pense que ce sera une grande évolution.
On fera une émission là-dessus.
Voilà, exactement, parce que ce n'est pas le sujet.
Bien, alors on parle des régimes cétogènes, dit diète cétogène ou alors régime keto aussi.
Oui.
Pour les intimes, si vous avez des questions à poser au docteur Alouche, il est là. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de régime cétogène, de la diète cétogène ce matin avec le docteur Réginald Alouche qui est avec nous. On prendra vos appels dans un instant, un petit peu de patience au 01 53 48 3000. Donc j'aimerais qu'on définisse ce régime cétogène. J'aimerais dire que ce n'est pas le régime que vous préconisez, docteur Alouche.
Je ne préconise pas. Hein, non. Je suis là pour l'expliquer.
Pour savoir, voilà.
C'est un régime important dans le panorama des régimes. En fait, le régime cétogène, c'est en gros remplacer tous les sucres par des graisses. Voilà, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on inverse la pyramide. Vous savez que la pyramide, c'est et la doctrine du PNNS, du Plan National Nutrition Santé, c'est 55% de glucides, 25% de graisse, 20% de protéines. Et en fait, le régime cétogène, c'est très peu de sucre, 5%. Ensuite, un peu de protéines, 20-25%. Parce qu'on est obligé de les augmenter, parce que sinon on ne mange pas grand-chose. Et puis tout le reste, ce sont les graisses. Voilà, donc ce sont des régimes qui vont favoriser, c'est un régime qui va favoriser les œufs, les avocats, tout ce qui est un peu gras.
C'est le roi, l'avocat.
C'est le roi absolu.
Le roi du régime, oui.
On utilise beaucoup ce régime. Et donc on va favoriser massivement les graisses au détriment des sucres. Donc c'est pratiquement pas de sucre. Comme c'est pratiquement pas de sucre, votre organisme est obligé de fabriquer du glucose pour nourrir les cellules. Pour le fabriquer, il va utiliser des voies métaboliques, c'est-à-dire un système d'enzymes qui va décomposer les graisses et faire du sucre. Quand il fait ça, il y a des résidus qui s'appellent les corps cétoniques. Ces corps cétoniques vont avoir, donc, sont des résidus de cette glucogénèse, c'est-à-dire le fait de générer du glucose à partir des graisses. Et ces corps cétoniques vont un tropisme très fort pour le cerveau et ils ont un effet coupe-faim et un effet dynamisant.
Donc on a moins faim.
On a beaucoup moins faim et surtout on a un petit côté presque euphorique. Hein. Et on a un petit effet indésirable qui est une haleine, un peu de vernis à ongles. C'est une haleine de pomme.
Hein, avant on disait les crises de cétone. D'acétone.
Voilà, exactement. C'est l'acétone, ça sent un peu. L'acétone, il y en a dans les vernis à ongles.
Voilà,
ouais. Voilà. Et en fait, pendant les trois premiers jours de la mise en place du régime cétogène, il y a ce qu'on appelle la grippe cétogène. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on a des nausées, on a mal à la tête, parce que justement, l'organisme est en train de switcher d'un système industriel, je fais du sucre à partir des sucres, des lipides et des glucides, à un système industriel, je fais des sucres à partir des graisses uniquement.
Donc, ce qui veut dire qu'on peut passer, donc. On dit en état de cétose,
oui.
Au bout de 3 jours.
Il faut en général 3 à 4 jours.
D'accord. Ça me fait penser un peu au Ramadan.
Oui.
C'est la même chose qui se passe que
pendant le Ramadan, on mange avant le lever du soleil,
ouais.
Et ensuite pendant toute la journée, on ne va pas consommer. Donc on est dans un régime où effectivement le corps va au début épuiser son stock de sucre qui est de 20 minutes. 20-25 minutes sous forme de glycogène qu'il y a dans le foie et dans les muscles. Et ensuite, il va commencer à utiliser ses graisses. Et ses graisses, quand il utilise ses graisses, il va effectivement faire de l'acétose.
On est dans le même...
On est dans le même...
L'organisme est un peu dans le même état.
Il est un petit peu enclenché. Il n'est pas complètement enclenché parce que le soir, après le coucher du soleil, on va consommer, et souvent on consomme beaucoup de sucre. Donc là, il y a comme ça une espèce d'aller et venu. C'est pour ça qu'il faut le préparer le ramadan, il faut le penser le ramadan. En termes nutritionnels.
Ça tombe bien cette année, vous allez le penser pour nous, voilà, et avec nous.
Il faut le préparer pour que, pour votre organisme, ce soit un bienfait, et qu'il n'y ait pas de... C'est toujours la même chose, c'est les excès. Hein. Je pense qu'aucune religion ne favorise les excès, et donc il faut vraiment penser son ramadan, et le penser au niveau nutrition.
Alors, la formation des corps cétoniques, où a-t-elle lieu ?
Ah bah, dans le foie, c'est le foie. Hein.
C'est
toujours le foie.
Oui.
Le foie, il fait tout. C'est vraiment le grand général, comme disent les Chinois, parce que dans la médecine chinoise, on l'appelle le général. C'est lui qui va organiser tout ça, et c'est lui qui va créer les corps cétoniques et qui va les envoyer là où il faut pour donner un état quand même de bien-être. Parce que vous comprenez que pendant 3 jours, vous avez changé, modifié fondamentalement la façon dont vous viviez, dont vous absorbiez vos aliments. Et donc lui, il se dit, voilà, je suis confronté à une nouvelle situation, je vais faire mes corps cétoniques, et puis ça va donner un peu de dynamisme au cerveau, et il va quand même continuer à pouvoir chasser cet homme-là, parce que sinon, il va mourir de faim. Donc vous voyez, il y a toujours des phénomènes de compensation. Le problème, c'est combien de temps on peut rester sur un régime cétogène. Combien de temps, dans notre société aujourd'hui, on peut rester sans manger vraiment de sucre. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va boire de l'alcool. Dans un verre de vin rouge, il y a du sucre. Donc, de toute façon, vous cassez votre cétose si vous prenez un verre de vin rouge. Donc, vous voyez bien que, ou même si vous prenez un fruit, c'est un système très, très sensible. Hein.
Il faut toujours être en train de calculer, finalement, c'est ça que je veux dire.
Voilà, c'est-à-dire un peu être obsessionnel. C'est tout le problème de ces régimes. C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible avec une vie urbaine, ou une vie même, une simple vie quotidienne, ou une vie un peu plus routinière? Comment fait-on pour tout changer radicalement? C'est très compliqué. Et surtout, socialement, c'est compliqué. Si vous êtes invité à dîner, allez expliquer que vous ne mangez que des graisses, pas un truc de sucre, vous allez tout refuser. C'est très compliqué socialement. Donc, ça peut avoir un intérêt de façon thérapeutique, parce qu'il y a des indications du régime cétogène dans certaines thérapeutiques. C'est utilisé, on l'a dit tout à l'heure, par certains médecins dans le cadre de certaines chimiothérapies pour affamer les cellules cancéreuses. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Ça peut être utilisé aussi pour perdre très vite du poids. Vous êtes une star, vous avez un shooting ou un truc, vous voulez perdre très très vite, donc vous vous astreignez. Mais quand vous êtes une star et que vous préparez un film, vous travaillez pas de 7h du matin à 6h de l'après-midi dans un métier. Vous voyez ce que je veux dire? Votre job à vous, c'est de faire de l'exercice physique et de faire votre régime. Donc c'est plus facile quand on est dans un climat apaisé et quand on est motivé pour des choses. Mais après, un cétogène plus d'un mois, moi j'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire.
C'est paradoxal, finalement, de se dire qu'on perd du poids en mangeant gras. D'une certaine façon, il y a un truc qui ne va pas, voyez.
Alors, il faut comprendre une chose, et c'est vrai que le gras a eu une très mauvaise presse depuis 40 ans, depuis 60 ans, depuis ses études, Farmingham et ainsi de suite. On a dit, je mange du gras, donc le gras, je le stocke. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand vous mangez du gras, effectivement, vous allez le stocker dans vos adipocytes, c'est-à-dire ces cellules qui sont spécialisées autour du ventre, dans les cuisses, dans le visage, dans les bras, pour stocker l'énergie. Mais il faut savoir que quand vous mangez du sucre, c'est encore mieux. Quand vous mangez du sucre, le foie, comme on ne peut pas... Stocker du sucre, ça prend énormément de place. Le glycogène, ça prend beaucoup de place. Donc, il y a juste la réserve pour le cerveau. Le foie, il a 20 minutes pour le cerveau. Mais tout le reste, il va prendre le sucre, il va les mettre par 3, et il va faire les triglycérides, les sucres, et les triglycérides, donc il transforme le sucre en gras pour les stocker dans les cellules adipeuses. Donc, en fait, vous faites autant de gras avec un yaourt nature gras qu'avec un yaourt sans sucre. Parce que yaourt sans graisse. Parce que comme dans le fruit, il y a du sucre.
Un yaourt light.
Eh bien, on remplace, on dit il n'y a pas de gras, mais comme il y a des sucres, eh bien, le sucre va être transformé en gras.
Voilà.
Peut-être encore mieux que le gras qui vient d'extérieur, qui lui est un gras exogène. Alors que le gras que va faire votre foie, c'est un super gras, bien propre, avec les 3 glycérides, un trium, avec une structure qui permet d'être reconnu par les adipocytes et faire ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la fabrication des lipides et de stockage dans les adipocytes.
D'ailleurs, dans les régimes cétogènes, ils vous conseillent de manger des yaourts gras, les yaourts un
oui,
peu...
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, le gras a souffert de toutes ces de cette histoire de cholestérol qui peut, lorsqu'on a des accidents cardiaques ou des problèmes coronariens, c'est vrai, il faut éviter que le cholestérol soit trop augmenté. Mais je vous rappelle que 75% de votre cholestérol est généré par votre foie. Le cholestérol qui vient de l'extérieur, c'est uniquement 25% du montant global du cholestérol. Et c'est pour ça que, pour les auditeurs, quand vous faites une mesure du cholestérol, faites aussi une mesure des triglycérides. Parce que les triglycérides, c'est le montant de gras qui a été généré à partir des sucres également.
Mana est avec nous au 01 53 48 3000, champion du monde de la pizza. Mana, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour Mana.
Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui. Comment il va ?
Bah écoutez, ça va. La pizza, c'est j'adore la pizza. Vous savez que je n'ai pas avoué que j'aurais l'insulte de dire que c'est le premier plat mangé dans le monde, je crois, la pizza.
Bah c'est pas deuxième.
Deuxième, pardon. Je suis désolé.
Deuxième, c'est les Américains devant apparemment.
Ouais. Ouais, mais il y a la pizza américaine qui n'a rien à voir avec la pizza italienne. Ça, c'est un autre sujet. Mana, quelle est votre question, docteur Alouche, si vous en avez une.
Alors moi, docteur, j'ai deux petites questions. Moi, je suis en fauteuil roulant.
Oui.
D'accord. Donc, vous dites qu'il faut brûler des calories.
Oui.
Mais pour ceux qui sont en fauteuil roulant, bon, moi, c'est vrai que ça m'arrive de faire des pointes, des lignes droites en poussant avec mes bras.
Oui.
Mais le reste du corps, en fait, en partie, enfin, par le haut qui travaille, mais pas le bas, comment on peut perdre autrement des calories ?
C'est une excellente question. En fait, vous pouvez faire de la musculation. Vous pouvez faire de la compétition effectivement en fauteuil, mais la musculation aussi c'est très très bon. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est assis longtemps, on a un problème de capacité respiratoire et de capacité thoracique. Donc vous pouvez faire des mouvements qui sont des mouvements avec des poids. Vous pouvez développer vos pectoraux, développer vos dorsaux, développer vos abdominaux. Il y a des machines spéciales d'ailleurs lorsqu'on est en fauteuil roulant pour développer le haut. Alors le seul inconvénient, c'est que parfois, on a aussi un peu une hypertrophie de la partie haute du corps par rapport à la partie basse. Mais il ne faut pas négliger la partie haute. Moi, je vois chez les gens, et particulièrement chez les femmes qui font l'exercice physique, on fait souvent de l'aqua biking, des abdos fessiers, des choses comme ça. Et les femmes ne font pas assez de travaux pour le haut. Et travailler pour le haut, c'est très important parce que c'est dans l'abdomen et au niveau du torse et de la cage thoracique que se passe. Alors la cage thoracique, c'est évident, plus vous ouvrez votre cage thoracique, déjà beaucoup de femmes ont tendance à être un peu voûtées, un peu vers l'intérieur, surtout les femmes qui ont une poitrine importante. Donc il faut ouvrir la cage thoracique. Quand on ouvre la cage thoracique, ça permet aux poumons d'avoir une meilleure saturation en oxygène, et donc d'avoir une très bonne oxygénation du cerveau, faire travailler aussi ses abdominaux et pouvoir, je ne sais pas si vous, Mana, si vous pouvez faire des exercices de gainage, vous pouvez les faire ou pas ?
Moi, vous savez que moi, je pousse beaucoup avec mon fauteuil, je fais des transferts, je bouge, je me mets debout, etc.
Oui.
Je travaille beaucoup le haut, ce n'est pas vraiment mon souci en fait.
Oui.
Mon souci serait plutôt au niveau de la taille.
C'est le milieu.
Ouais, Alors le milieu, vous pouvez le faire avec des machines peut-être ?
Voilà, perdre deux ou trois tailles. Mais ça, pourtant, je suis pas très... Alors justement, pour arriver au sucre, le sucre, je suis pas très sucre.
Mais vous êtes pizza.
Mais les pizzas, je les goûte, je les déguste, mais j'en mange pas pour autant.
D'accord.
Et puis, de toute façon, il n'y a pas de sucre dans le... Enfin, moi, j'en mets pas.
Ah oui, mais il y a du sucre dans la pâte à pizza. La pâte à pizza, c'est de la farine de blé. Et dans la farine de blé, vous avez des amidons. Et donc, vous avez du sucre.
Il y a un petit peu de sucre, c'est ce que j'allais dire.
Ah oui.
Mais il y a un petit peu de sucre. Mais de toute façon, le corps et le cerveau ont besoin d'un petit peu de sucre quand même.
Oui, un petit peu de sucre. Mais une pizza, si vous voulez, il faut voir. Je crois que dans ce qu'on mange, il faut comprendre qu'il y a... La pizza, c'est un plat qui était considéré en Italie comme un plat de pauvre. C'est-à-dire qu'on achetait le pâton dans la rue. C'était un pâton qui était en général à une unité. C'est-à-dire l'unité de base monétaire, ça pouvait être un sou ou une lire, et ensuite on rentrait chez soi, on étalait le pâton, on mettait tous les restes dessus et on se faisait un repas. On a en Afrique du Nord, on a le bol de pois chiches. Vous avez le bol de pois chiche qui coûtait un sou en Tunisie. Et ce bol de pois chiche, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est effectivement de l'amidon, c'est des vitamines et c'est des fibres. Et c'était le plat de pauvre.
Il y a des protéines dans les...
Ah ben oui, dans les pois chiches, il y a beaucoup,
beaucoup de protéines. Ouais.
Donc c'était, si vous voulez, c'était des plats qui permettaient à la population la plus large de pouvoir vivre sans trop d'argent. Et donc, vous, pour revenir à votre activité physique, vous avez des salles aujourd'hui où vous avez des machines qui sont adaptées à votre problème, à votre handicap, et qui vont vous permettre de développer vos abdominaux. Et je crois que vous avez raison, il faut les développer. Et si vous pouvez aussi faire un peu de gainage en vous faisant aider, vous savez, le gainage, c'est lorsqu'on on s'allonge comme ça par terre sur les coudes et on contracte l'abdomen, ça permet de... Il y a un muscle qui s'appelle le transverse, qui permet justement de ne pas avoir après le repas un gros ventre. Vous savez, souvent, il y a des gens, et il y a beaucoup de gens, qui, lorsqu'ils ont mangé, ont un ventre assez important, et puis après, deux heures après, ça a diminué. Mmh. Et ça, c'est lié à la puissance de ce transverse.
Ça, c'est à moi, ça, par exemple. Oui.
Pardon ?
C'est moi, ça.
Il faut gainer votre transverse, parce que c'est ça qui va vous permettre, justement, d'éviter d'avoir un gros ventre.
Bien, voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin, Mana. Merci pour votre question. Merci. On prendra d'autres appels dans un instant, 01 53 48 3000. Mais on parle du régime cétogène ce matin. Oui. Et le docteur Alouche nous dit ce qu'il en pense, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Docteur Réginald Alouche qui est avec nous, qui est venu avec tous ses livres ce matin. Donc, le dernier... là, que vous montrez, qui est sorti donc aux éditions Albin Michel, là déjà qui cartonne, oui. La méthode hépato-détox, oui. Ça c'est chez Albin Michel.
D'ailleurs, je tiens à dire que c'est un titre de livre, parce que au fond, on détoxifier son foie, c'est faire attention à son foie. Hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de détox, puisque c'est lui qui est chargé de le faire.
Ah, c'est lui qui bosse.
Oui, c'est lui qui bosse. Oui.
Alors, on a Laetitia de Grenoble qui est là au 01 53 48 3000. Laetitia, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour Philippe, bonjour docteur.
Bonjour.
Alors moi je vous appelle pour avoir votre avis, votre conseil, donc concernant la méthode de manger du fromage le matin avec du pain blanc et de l'huile d'olive. Alors en fait, moi j'ai 35 ans, j'ai des enfants en bas âge, à qui je donne également un morceau de pain blanc avec de l'huile d'olive et du fromage le matin. Donc moi je trouve que depuis que je mange donc le fromage le matin, j'ai pris au niveau du ventre et des hanches. Alors et mes enfants, enfin...
Est-ce que je peux vous poser une petite question? Est-ce que quel type de fromage vous mangez?
Alors je mange le fromage à pâte dure.
Oui, vache, de vache, de brebis ou de chèvre?
De vache.
De vache, très bien. Et le pain blanc. Alors, c'est une très très bonne question, Laetitia, parce qu'en fait, on va essayer d'analyser votre petit déjeuner. D'abord, si vous avez changé votre petit déjeuner, c'est que le petit déjeuner classique vous ennuyait et que vous vous disiez il y a trop de sucre. Il y a des confitures et des choses comme ça, ou du miel, et je veux changer. Dans votre petit déjeuner, ce que je vous propose de changer, c'est d'abord le pain blanc. Comme vous le savez, et d'ailleurs je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission, Philippe, sur les index glycémiques, le pain blanc a un impact sur la sécrétion d'insuline qui est assez important, puisque son index glycémique est aux alentours de 75-80. Donc première chose, si vous pouviez prendre plutôt du pain à base de farine tradition, qui est une farine qui en plus a un avantage, c'est que légalement, réglementairement, vous ne pouvez pas avoir d'additifs dans la baguette tradition. Et aujourd'hui, les boulangers travaillent vraiment bien. Prenez cette baguette qui est meilleure, ou ce qu'il y a de mieux, mais qui est beaucoup plus cher, c'est le pain au levain. Parce que le pain au levain a un avantage, c'est que dans le levain, vous savez, pour faire lever le pain, vous avez soit de la levure industrielle, soit de la levure naturelle. Et les boulangers sont très jaloux de la formule de leur levain, qui sont en fait des petits micro-organismes qui vont prédigérer le pain. Et en fait, ce levain, lorsque vous allez avaler ce pain, dans l'estomac, le levain va commencer déjà à découper le gluten. Et donc, pour les gens qui sont un peu sensibles, qui ont des flatulences, qui ballonnent, ça va permettre d'avoir déjà une meilleure digestion. Ensuite, vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou du beurre indifféremment. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Sur les fromages, moi, je vous recommande plus les fromages de brebis et les fromages de chèvre. Je vous explique pourquoi.
Fromage frais, donc.
Voilà. Pourquoi ? Parce que les vaches, aujourd'hui, ne mangent plus d'herbe. Il y a moins de 10% des vaches qui mangent de l'herbe en France, et c'est particulièrement celles qui ont des appellations contrôlées, qui font du fromage d'appellation contrôlée ou des viandes d'appellation contrôlée. Les autres sont à la stabulation, c'est-à-dire à l'étable, et elles mangent des tourteaux de maïs, soja et tournesol. Le soja, maïs et tournesol sont très riches en oméga 6. Les oméga 6 sont des acides gras insaturés qui sont inflammatoires. Donc moi, je vous recommande plutôt basculer pour des fromages frais de brebis ou de chèvre à quantité raisonnable. Et il y a un deuxième facteur important, c'est que le gras dans le lait de vache et le lait de chèvre et de brebis est très différent. Dans le lait de vache, ce sont des chaînes longues, c'est-à-dire que le gras qui est à l'intérieur doit être découpé et parfois a tendance un peu à se déposer sur les artères lorsqu'elles sont inflammées par la cigarette, l'alcool ou les contraceptifs oraux. Alors que les chèvres et les brebis, elles, donc, d'un côté, elles mangent de l'herbe, donc elles sont riches en oméga 3, contrairement aux oméga 6 des vaches, mais aussi elles ont des chaînes courtes et moyennes, donc elles sont beaucoup plus digestes. Pour ceux que ça intéresse, il y a un très bon site qui est la FAO, qui dépend de l'ONU, qui est l'organisme qui gère tout ce qui est alimentaire dans le monde, et il y a une très très belle étude sur tous les laits et la façon de les fonctionner. C'est un peu aride, c'est un peu technique, mais franchement, c'est une mine d'informations. Donc, au fond, Laetitia, si vous avez envie de manger ça avec vos enfants, du pain tradition, de l'huile d'olive première pression à froid
et du fromage frais.
Et du fromage frais, brebis et chèvres, et profitez-en bien.
Mais pas de fromage blanc par contre.
Vous pouvez prendre du fromage blanc et c'est pas la peine de prendre du 0%. Prenez du 20% ou du 40%. L'idée, vous savez, c'est d'abord, est-ce que vos enfants sourient quand ils mangent ce petit déjeuner? Et deuxièmement, d'y prendre du plaisir, mais avec des quantités raisonnables. Il y a toujours une logique de quantité. C'est pas parce que les choses sont bonnes qu'il faut en abuser. Donc, si vous faites ça, votre petit déjeuner est parfaitement cohérent. Moi, j'ajouterais quelques petites noix pour avoir des oméga 3 et surtout les oméga, dans les noix, il y a des oméga 3, mais il y a aussi des acides gras saturés qui vont couvrir le fait de ne pas avoir faim jusqu'à 1h de l'après-midi.
Ben, on prend du pain aux noix des fois aussi.
Ah ben, très bien. Le pain aux noix, c'est très bien.
Donc le pain au noix peut convenir mieux que le pain blanc, quoi.
En tout cas, le pain au noix, en général, il est fait avec du pain, avec des farines de céréales complètes. Pas trop complètes, hein, d'ailleurs, parce que si vous avez, comme dans le pain complet, il y a beaucoup de gluten, et pour les gens qui ont des problèmes avec... En fait, le gluten, il n'y a pas de problème de gluten. Le problème du gluten, c'est qu'il est utilisé comme améliorant, et qu'on en rajoute... J'ai des vieilles statistiques, je crois que c'est plus de 272 000 tonnes par an de gluten ajouté dans les pâtisseries et les boulangeries.
Pour mieux travailler les pâtes.
Voilà, parce que le pâton est plus facile à travailler, on peut le surgeler, ça fait en gros par français par jour 10 grammes de gluten. Donc c'est ça en fait qu'il faut éviter.
Merci Laetitia pour votre appel. On revient au régime cétogène de Dr Allouche.
Ce n'est pas le régime cétogène du Dr Allouche.
Non, c'est pas le vôtre
c'est
encore.
C'est mon avis en tout cas.
C'est votre avis.
Voilà.
Quels sont les risques de carence à suivre un régime tel que le régime de cétogène? Puisque si on mange quasiment du gras, qu'est-ce qu'on risque?
Alors, ce qu'on risque, en fait, c'est que comme on va diminuer de façon drastique les légumes, et on va diminuer les fruits, on va diminuer les féculents, et les légumineuses, c'est les fibres et les vitamines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une faiblesse en fibres qui peut amener d'ailleurs une certaine forme de constipation. Donc il faut, et je vous rappelle que les fibres, c'est le seul aliment pour notre flore bactérienne intestinale. Donc il faut compenser en fibres et ajouter
des
fibres.
Sous quelle forme alors ?
Alors vous pouvez, sur les fibres, vous pouvez prendre par exemple des racines de chicorée, vous pouvez prendre des endives, parce qu'elles sont pas sucrées, il y a dedans des fibres solubles et des fibres insolubles.
Ouais.
Et puis prendre des compléments alimentaires de vitamines pour compenser. Mais encore une fois, quand vous faites un cétogène de 3 semaines, vous n'allez pas avoir de carence. Si vous faites un cétogène de 3 mois, là, vous risquez d'avoir des carences. Donc, vous pouvez vivre le cétogène. Alors, je vais être un peu positif vis-à-vis de ça. Vous pouvez faire un régime cétogène parce que, au début, pendant 3-4 semaines, parce qu'il va vous aider, justement, à perdre du poids significativement. Et voyez avec votre médecin comment réintroduire les légumineuses, surtout, et ainsi de suite, et les légumes qui ont un peu de sucre. Mais il faut surtout éviter de le faire de façon prolongée pendant des mois et des mois.
Alors, Netflix a sorti un film qui s'appelle The Magic Pill, pour documenter les personnes qui utilisent notamment ce régime. Alors, ils disent que ça soigne l'asthme, l'autisme, le diabète, le cancer, enfin voilà. Donc,
Écoutez, bon, je ne l'ai pas vu.
Vous l'avez pas vu ?
The Magic Pill. J'irai regarder, mais en tout cas, je ne me permets pas de donner une opinion sur quelque chose que je ne connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la conséquence, vous avez cité l'asthme, le diabète, l'autisme, ainsi de suite. Moi, je pense que dès qu'on fait attention à soi, dès qu'on prend du temps pour soi, dès qu'on pense sa santé, eh ben ça va mieux. Et que au fond, régime cétogène, régime ceci, régime cela, à partir du moment où on a décidé de s'occuper de soi, où on a décidé d'être la personne la plus importante de sa vie, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir les aimer, il faut s'aimer d'abord. Et donc, il faut s'occuper de soi.
Fatima est avec nous au 01 53 48 3000. Fatima, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour Philippe.
Bonjour Fatima.
Bonjour Fatima.
Ça va, vous allez bien?
Ça va bien, et vous?
Ça va. Moi, j'avais une question. J'ai vu un médecin qui m'a dit qu'ils avaient j'avais un manque de collagène.
De collagène?
Oui. Ouais. D'accord. Et c'était à la suite de quoi? Vous aviez des douleurs articulaires? Vous aviez des choses comme ça?
En fait, je ne sais pas encore ce que là, le médecin il ne trouve. J'ai été aux urgences, il ne trouve pas ce que j'ai. Même à l'heure actuelle, je vous parle.
Oui.
C'est qu'il y a 15 jours...
Ah, il y a, il y a du suspense, Fatima. Il y a 15 jours... Ouais, alors, il y a 15 jours, il s'est passé quoi?
Il y a 15 jours, j'ai fait un malaise.
Oui.
Je me suis réveillée, j'avais la tête qui tourne.
Oui.
Envie de vomir. Donc, du coup, j'étais aux urgences et m'ont fait tout un état d'examen. Moi, bon, j'ai rien de particulier, pas de tension, pas de diabète, pas de. Enfin, j'ai rien de particulier. Mais ils pensent que j'ai des cristaux. Donc, du coup, j'ai pris un rendez-vous avec un ERL que lui, il m'a remis tout en place. Il m'a dit d'attendre 15 jours. Mais le problème.
Vous parlez des cristaux dans les oreilles?
Dans les oreilles.
Oui. D'accord.
Du coup, bah, en fait, entre-temps, j'ai été voir un médecin qui m'a fait tout un prélèvement et qu'elle me dit que j'ai dit que j'avais toujours mal à la tête, que j'ai les yeux qui me picotent, elle me dit que j'avais un problème de collagène.
Oui.
Et que j'avais un problème, moi aussi, enfin, avec le foie, à faire son travail. Donc, je sais pas si...
Alors, comme ça, très, très sincèrement, à distance et sans...
C'est,
parce que là,
c'est
on
compliqué,
parle de choses,
ouais.
On parle de choses un peu plus compliquées parce qu'il y a des maladies du collagène. Elles sont rarissimes, mais elles existent.
Ouais.
Le lien avec le foie, ça peut être aussi une maladie auto-immune. Mais avant de conclure, de faire des conclusions...
C'est quoi des maladies du collagène? Je suis désolé, docteur Alouche. Moi, je pensais que c'était ce qu'il y avait dans les crèmes, le collagène. Alors,
Non, les crèmes, il y a du collagène parce que le collagène, en fait, c'est une structure en treillis qui est une structure qui permet de... comment vous dire? C'est comme... c'est une membrane qui va être extensible, un peu flexible, et qui va assurer pour une articulation que les choses coulissent bien.
D'accord.
Et dans la membrane, on va mettre un peu de liquide, du liquide synovial, qui va faire comme un amortisseur. Pour les gens qui connaissent un peu la mécanique, c'est ça. C'est-à-dire que...
Mais de l'huile.
Voilà, le liquide synovial, c'est de l'huile, et la structure de collagène, c'est aussi votre peau, elle a une structure de collagène pour construire. C'est comme ça qu'on construit. Les gens qui sont maçons savent qu'on met des enduits d'abord avant de mettre une peinture de finition. Eh bien, c'est un peu ça, le collagène.
Bon, alors, c'est qu'est-ce qu'on peut conseiller à Fatima?
Je pense que de toute façon, si votre médecin vous a parlé d'une maladie collagène, il faut l'explorer. En général, elles sont rarissimes et il faut aller dans un bon service de médecine interne pour savoir si c'est une maladie familiale, est-ce qu'il y a eu ça dans votre famille, est-ce qu'il y a eu quelque chose. En général, ce ne sont pas des maladies qui se déclarent et qui appellent à l'urgence. C'est plutôt des maladies qu'on diagnostique au décours d'une hospitalisation. Donc vraiment, je vous conseille d'aller dans un service de médecine interne, de l'explorer à fond pour savoir si c'est une maladie particulière.
Et familiale. Merci Fatima pour votre question. Donc, dans 3 semaines, docteur Alouche, on fera une émission de science sur les indices glycémiques pour expliquer vraiment à tout le monde, puisque Mana nous disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de sucre dans la pizza.
Et
là, je vous ai vu un petit peu.
Non, c'est pas ça, c'est que vous avez deux types de sucre, les sucres simples, c'est le saccharose, le sucre en poudre que vous achetez, et les sucres complexes, qui sont les amidons. Et les amidons, vous avez deux types d'amidons. Vous avez les amyloses et les amylopectines, et que lorsque vous faites une pâte à pizza, vous avez de l'amidon. Et donc cet amidon va être découpé ensuite en sucre, et en fonction de sa quantité d'amylose et d'amylopectine, le sucre va entrer vite ou pas vite dans le sang.
Docteur Régina Lalouche, vous revoyez cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécoutez les podcasts sur beurrefm.net. À bientôt, Doc.
À bientôt, merci de m'avoir invité.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.